Bonjour, vous êtes bien sur Radio B.
En direct du Radio Club.
De 18h à 20h.
Salutations sur vous, mes petits choux à la crème. Vous écoutez le Radio Club en direct de Radio B pour leur dernière émission de l'année. Ce soir, moi, Princesse Lou, je suis en compagnie de Fadel, Aude, Lola, Gaël et Rémi. Bonsoir à vous, mes petits choux.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Salut, salut.
Ce soir, chers auditeurs, chères auditrices, c'est une émission spéciale Noël. Au programme, une interview d'une personnalité de Bourg-en-Bresse, un micro-trottoir, un échange, une petite chronique et un échange sur les solidarités durant les fêtes de fin d'année, une chronique sur les reines du Père Noël et une chronique sur les traditions, croyances, légendes et folklore de nos aïeux en Bresse. Et sans plus attendre, les roulements de tambour résonnent, mettant ainsi fin à un suspense que notre auditoire et nous-mêmes ne pouvons plus contenir. Je laisse donc la parole à Fadel. Fadel qui va nous en dire un peu plus sur cette interview mystère annoncée en début d'émission.
Oui, bonsoir. Alors, cette interview s'intègre dans le thème de notre émission qui porte sur Noël, à la fois à l'échelle de la ville, mais aussi à l'échelle d'une famille, avec une personnalité politique de Bourg-en-Bresse qui a accepté gentiment de répondre à nos questions. Donc on espère avec Aude qu'il va vous plaire et bonne écoute. Alors nous sommes ce soir en compagnie d'une burgienne d'origine, première adjointe au maire de Bourg-en-Bresse, présidente de Grand Bourg Habitat et vice-présidente de Grand Bourg Agglomération, qui a toujours à cœur de faire avancer la transition écologique sur Bourg-en-Bresse. Bonjour Isabelle Mestre.
Bonjour à vous deux, Fadel et Aude, bonjour.
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 Alors donc Isabelle, vous êtes née à Bourg-en-Bresse, vous avez grandi à Bourg-en-Bresse. Quels souvenirs gardez-vous des Noëls de votre enfance ?
De très nombreux souvenirs. Je suis une grande fan de Noël et ma famille l'est tout autant. C'est d'ailleurs pour ça que je le suis, je pense. J'ai de très nombreux souvenirs de mes Noëls d'enfance. Ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est sur la période de Noël, c'est le 8 décembre, les illuminations. Mes grands-parents maternels étaient lyonnais et donc le 8 décembre est un jour important dans la famille. Et les illuminations, les fêtes des lumières telles que l'on les connaît aujourd'hui à Bourg-en-Bresse n'existaient pas il y a une trentaine d'années. Et donc, il y avait cette tradition qui existe toujours de mettre les petites bougies au bord des fenêtres. Et chaque année, nous procédions à cela de manière très solennelle. Et donc ça, c'est un souvenir très fort. Et pour moi, c'était le début des festivités.
Mmh. Et le marché de Noël, il existait déjà sur Bourg ?
Alors, je n'en ai pas souvenir, je ne pense pas. Je pense qu'il est arrivé plus tard. D'ailleurs, petite, cela ne fait pas partie de mon périmètre de souvenirs, le marché de Noël, en réalité. Je n'étais jamais allée en Alsace pour découvrir les marchés de Noël ou en Allemagne. Je l'ai fait plus tard, mais voilà, enfant, je ne crois pas. À Bourg-en-Bresse, non, je ne crois pas.
Et hormis donc le 8 décembre, vos traditions familiales à Noël, c'était quoi ?
Elles sont extrêmement nombreuses. Noël, c'est un moment dans l'année pour la famille Metz qui est vraiment rythmé au rythme, au son des différentes traditions. Beaucoup savoyardes parce que mon papa est savoyard et donc les festivités commencent effectivement dès le début du mois de décembre où la maison est toute décorée, où on allume des bougies chaque dimanche, on prépare familialement cette fête, donc de manière très concrète, par exemple, on plante des clous de girofle dans les oranges pour les suspendre, avec du coup une décoration assez naturelle. On sort les instruments de musique, donc j'ai souvenir de mon papa avec sa guitare plusieurs fois dans la semaine, sur tout le mois de décembre, où on chante tous en chœur les chants de Noël pour être bien prêts pour le 24 au soir. J'ai souvenir du 25 au matin, quand le Père Noël est passé, où dans les chaussons, on avait en plus de quelques cadeaux les oranges et les papillotes. Et ça, c'est quelque chose qui tenait beaucoup à cœur à mes parents, parce qu'eux, pour le Noël, n'avaient que une orange et une papillote. Mmh. Et donc, encore avec mes enfants, ils ont également dans leurs souliers une papillote et une orange, en plus des quelques cadeaux, bien sûr.
Et on mangeait quoi de bon chez vous ?
Alors là aussi, il y a tout un rituel autour de la fête de Noël chez les maîtres. On fait beaucoup nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Le pâté croûte, la bûche, le foie gras, on fait les truffes, on fait les rissoles. Les rissoles, c'est les petits chaussons aux pommes savoyards. Chacun a sa tâche dans la famille, chacun a sa recette. Et moi, depuis toute petite, il y a une tradition avec mon papa, c'est qu'on fait la bûche tous les deux. Chaque année, on a une photo le 24 au soir où on a la bûche confectionnée par nos quatre mains. Et donc, en réalité, on voit l'évolution, on va dire, de notre avancée dans l'âge à tous les deux, puisque nous avons la même photo au même endroit, au même moment de l'année, mais seulement sur une période de 37 ans. Noël, c'est vraiment aussi une rencontre autour de bon mets. Voilà, on prend le temps de cuisiner ensemble en famille et d'offrir aussi ce qu'on fabrique ensemble.
Donc c'est chouette de se rendre compte que pour vous, en tout cas, vos Noëls ont toujours autant de saveur que par le passé. Est-ce que vous pensez cependant que c'est valable pour tout le monde, ça ?
J'ai envie de dire, je l'espère. En tout cas, je crois que ce que représente Noël pour moi, c'est avant tout une fête familiale. Voilà, ni plus ni moins en réalité. Et où on a une attention particulière portée à l'autre, à ceux qu'on aime. On se met en marche pour chercher un joli cadeau. On se met en marche pour préparer, pour bien recevoir, pour bien accueillir. Et donc pour moi, c'est un temps dans l'année où vraiment on prend le temps d'être ensemble et de vivre ensemble. Donc je souhaite que tout le monde puisse connaître ça, au-delà de l'aspect un peu consommation de Noël, cadeau, etc. Les liens que l'on peut resserrer à Noël, nous porte aussi toute l'année.
C'était justement une petite question qui nous taraudait un petit peu. Est-ce que selon vous, le Père Noël apporte trop de cadeaux ?
Ça dépend des Pères Noël. Ça dépend des Pères Noël. Déjà, c'est bien quand le Père Noël amène un cadeau pour tout le monde. Voilà. Ouais. Et des opérations comme l'opération boîte à chaussures, elle permet aussi de pouvoir offrir à ceux qui seraient oubliés dans la tournée du Père Noël de recevoir quand même un super cadeau. Voilà. Après, il y a aussi d'autres manières de pas être non plus dans la surconsommation et avoir un Père Noël trop généreux. Donc, je pense que on peut quand même être raisonnable tout en se faisant plaisir.
Alors, par exemple, vous pensez à quoi ?
Par exemple, c'est très pragmatique, mais nous, dans la famille, on essaye d'offrir des cadeaux qui peuvent être de seconde main, notamment pour les enfants. Aujourd'hui, il y a des sites et puis il y a des endroits où on peut trouver plein de jouets quand même très, très sympas et qui sont de seconde main. Les cadeaux faits soi-même. Les petits cadeaux, je parlais des cadeaux qu'on peut manger, mais c'est aussi des petites décorations de Noël, par exemple. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut faire soi-même et qui peuvent faire beaucoup plaisir à recevoir. Et puis, dans ma famille, entre adultes, on ne s'offre plus un cadeau chacun. On fait un tirage au sort, ce qui permet déjà de réduire considérablement le volume de cadeaux et la quantité de cadeaux à faire.
Oui, parce qu'alors ça, parfois, ça prend des proportions incroyables.
Oui, et puis la charge mentale aussi, prend des proportions très importantes. Donc, ça permet de descendre d'un cran aussi.
C'est bien.
Et donc, au-delà de la sphère familiale, est-ce que vous avez réussi à la mairie, enfin pour la ville, à allier plaisir et raison pour ces fêtes ?
Alors, on essaye, même si on se fait quand même beaucoup plaisir, parce que c'est un moment qui se veut quand même festif, populaire, qui est un moment aussi très important pour les commerçants de la ville. Donc forcément, on y prête, nous, une attention vraiment accrue. Alors, raison, oui. Par exemple, sur les illuminations, on renouvelle chaque année certaines rues, certains décors, mais ce n'est pas systématique. Voilà, donc on a un taux de renouvellement qui est, on va dire, raisonnable. On est tout en LED, donc ça permet aussi, du coup, d'avoir quand même une consommation énergétique qui n'est pas démesurée. On éteint en plein cœur de la nuit aussi. Donc contrairement à d'autres villes, je pense qu'il y a quand même un effort qui est fait. Après, on se fait aussi plaisir parce que le temps de Noël, c'est aussi un temps populaire.
Oui, bien sûr.
La parade, par exemple, la parade de Noël, ça a un coût, 50 000 euros, la parade de Noël. Mais quel bel événement populaire. Voilà, quel bel événement populaire. C'est des milliers de personnes, c'est familial, il y a beaucoup d'enfants. C'est aussi des temps qui sont importants, je crois. C'est un coût, mais c'est de l'argent bien investi, selon moi.
Oui, c'est important aussi, par toutes ces actions, de redonner du plaisir d'être ensemble à des gens qui ne le sont pas forcément.
Exactement. Et puis pour qui, en fait, c'est peut-être un des événements, un des seuls événements qui vont vivre autour, autour de la période des fêtes. Donc, je crois que c'est aussi important de pouvoir offrir à tout le monde. Et pour le coup, la parade, c'est vraiment un événement qui rassemble toutes les générations, tous les quartiers, toutes les cultures. Et donc, je pense que c'est aussi chouette de pouvoir proposer ça en plein cœur de la ville et en plein cœur du mois de décembre.
Génial. Alors maintenant, moi, je vais vous poser une question fatidique. À Noël, vous êtes plutôt truffe ou papillote ?
Alors, je suis truffe et papillote, mais ça, c'est une réponse de Normand. Je suis truffe le 24 et le 25 et je suis papillote tout le mois de décembre.
Et ben avec tout ça,
ce sera un régime au mois de janvier.
Et ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Est-ce que vous avez un dernier mot pour tous nos auditeurs qui nous écoutent ?
Je pense que j'aurais juste envie de leur souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Qu'on fête Noël ou qu'on ne fête pas Noël, dans la ville, on sent quand même, moi je trouve qu'il y a toujours une émotion particulière.
Oui, il y a cette ambiance.
Il y a quand même une ambiance particulière. La ville se pare de lumière, de couleurs. Donc, je souhaite à chacun de vos auditrices et de vos auditeurs, et puis à vous également, à tous les deux, de pouvoir prendre le temps de se poser un peu et puis de savourer des moments en famille qui sont bien importants. Voilà, joyeux Noël à tous.
Merci beaucoup, bonne fête à vous aussi.
Merci beaucoup. Joyeux
Noël.
Merci.
Venez d'écouter Rockin' Around de Brandali sur Radio B. Et nous enchaînons tout de suite avec Aude. Alors Aude, de quoi vas-tu nous parler ce soir ?
Il y a quelques semaines, j'ai eu la très grande chance de participer à un stage de podcast avec Pauline Lagache, ancienne salariée de Radio B, en compagnie d'autres bénévoles de votre radio préférée. Avec mon petit micro, je me suis baladée dans les rues de Bourg en posant la question essentielle en cette période de Noël, question que je vous laisse découvrir.
Des papillotes, c'est meilleur. À Noël, vous préférez manger des truffes ou des papillotes ?
Moi, je préfère manger les papillotes parce qu'il y a un petit emballage autour, c'est festif. Puis les truffes, c'est trop bon.
Papillotes, l'emballage, on peut choisir différentes sortes.
Et vous ? Des truffes. J'aime pas trop les truffes. Oh, mais c'est du chocolat.
C'est des truffes à la crème qu'aux périodes de fête, qu'à Noël. Parce qu'elles sont réclamées, tout simplement. Les gens veulent les manger, ils les attendent, comme les papillotes.
Hein. Moi, je suis plus team papillote, moi.
J'ai une question de la plus haute importance à vous poser. À Noël, vous préférez manger des truffes ou des papillotes ?
J'aime pas.
Vous aimez pas ?
Non, du tout.
Alors, vous aimez quoi ?
Je préfère les crottes au chocolat classiques. Les truffes en chocolat, c'est ce qui est saupoudré de cacao en plus.
Donc vous, c'est les crottes?
Oui.
Et monsieur?
Des truffes.
Des truffes.
Parce que c'est bon, c'est un peu de cacao par-dessus. Mmh. Et c'est vite à manger, surtout quand on a un problème des dents. Quand j'étais marié, quand je suis divorcé, c'est ma femme qui les faisait elle-même.
C'était la reine de la truffe.
Pas la reine, mais elle faisait des bonnes truffes. Et
elle faisait des bonnes truffes. Ça vous
a laissé
un bon souvenir?
Ouais, parce que j'aime bien.
Qu'est-ce qui fait que voilà, les gens aiment les acheter aussi chez vous?
Le goût, parce que généralement on en fait déguster, ils les trouvent très bonnes. Et c'est pas tout le monde qui sait cuisiner et qui veut prendre le temps de cuisiner aussi. Hein. Après, il faut avoir les ingrédients, les bons ingrédients. Parce que pour cuisiner, il faut quand même de bons produits. Nous, déjà, elle est dans le cacao pur, donc c'est que du cacao amer. Tout se fait juste derrière, hein. C'est en direct de la fabrication à la vente.
Enfin, chocolat Trémonet, c'est une institution sur Bourg?
Oui, c'est ça, depuis 1906. C'est plus Monet depuis déjà bien longtemps, mais on a tout gardé au nom de Monet.
Alors, vous avez une boutique, alors, les gens voient pas, hein, mais qui est pleine de charme.
Dans son jus.
C'est aussi un souhait?
Oui, bien sûr.
De la part de la
bien
maison?
Sûr. Bien sûr, ça serait dommage d'abîmer une boutique comme ça. On fait des choses aussi assez classiques. C'est un petit peu leur Madeleine de Proust.
Ben écoutez, merci. Et toi, qu'est-ce que tu préfères?
Moi, c'est les papillotes.
Bah, dans les papillotes...
Parce qu'il y a du chocolat.
Mais dans les truffes aussi,
il y a du chocolat.
Oui.
Mais oui, mais dans les papillotes, il y a plusieurs goûts différents. Ça croustille, il y a de la praline parfois, du chocolat noir, chocolat blanc.
C'est trop bon.
Moi, je suis team papillotes.
Et team truffe.
Génial.
Joyeux Noël. Et...
Joyeux Noël.
Alors si ce moment radiophonique vous a plu, si comme moi vous rêvez d'être un jour, peut-être, le roi ou la reine du micro-trottoir, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant à la prochaine session du Radio Club qui débutera le 28 janvier. En voilà une bonne idée de cadeau dématérialisé, intelligent et militant.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Vous venez tout juste d'écouter Let It Snow de Dean Martin. Et nous allons maintenant vous parler d'un sujet qui nous semble assez important à aborder ce soir. En effet, beaucoup de personnes ont une expérience hyper positive de Noël parce qu'ils ont plein de cadeaux, parce qu'ils sont entourés, que ce soit par leur famille ou leurs proches, et parce qu'ils ont un grand festin devant eux la plus grande partie du temps. Mais on pense que ça serait bien de parler ce soir de ceux qui n'ont pas cette chance. De ceux qui ne reçoivent pas forcément de cadeaux, qui n'ont pas forcément de quoi manger ou qui ne sont tout simplement pas entourés pour ces fêtes. Et ces différents problèmes amènent à un élan de solidarité et d'entraide pendant ces fêtes qui sont hyper intéressantes, de plus en plus importantes et qui touchent de manière très positive des personnes et des familles sur Bourg-en-Bresse. On a par exemple dans cette ville l'opération Boîte à chaussures, dont a parlé Isabelle Maistre dans l'interview, et grâce à laquelle on peut tous participer à ce mouvement de solidarité en mettant tout simplement dans une boîte à chaussures des habits chauds, des jouets, des livres ou des gourmandises et un petit mot pour que chacun ait le droit à un cadeau à Noël. Vous pouvez déposer ces boîtes jusqu'au 21 décembre dans toutes les médiathèques de la ville, au panier bio, au secours populaire ou à l'atelier éco-citoyen et dans encore plein d'autres endroits sur la ville. Et toi Aude, qu'est-ce que tu penses de toutes ces solidarités à Noël ?
Eh ben, je vais faire une réponse de Miss France. Les solidarités à Noël, c'est génial, c'est magnifique. Forcément, ça nous parle à tous. On aimerait bien quand même qu'il n'y ait pas qu'à Noël, que les gens soient solidaires et que les gens regardent un petit peu autour d'eux. Voilà. Et vous, vous en pensez quoi ?
Moi, je suis entièrement d'accord que ça serait mieux que y ait les solidarités tout le temps, pas que à Noël.
Ben, écoutez, moi, je suis aussi d'accord avec vous. Et du coup, moi, ça m'amène à une question. Si vous deviez faire une petite boîte à chaussures à quelqu'un, qu'est-ce que vous mettriez dedans ?
Un gros bonnet.
Pourquoi ?
Bon, parce que ça tient chaud à la tête et que moi, on m'a toujours dit qu'un bonnet est égal à un pull. Donc voilà, un bonnet et puis plein de chocolat.
Et toi, Fadel, qu'est-ce que tu
mettrais ? Moi, je suis d'accord, j'allais dire des chocolats, des papillotes... Tout pour bien manger, quoi.
Moi, j'allais dire pareil que Fadel et Aude, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est bien de mettre aussi un petit bonnet ou une petite écharpe, des moufles ou quelque chose comme ça, quoi.
Et toi, Gaëlle, qu'est-ce que tu mettrais dans cette boîte à chaussures ?
Bah, tout a été dit, hein, déjà. La plupart de ce qui a été dit, que ce soit de la nourriture ou des vêtements, genre de choses, même des petits mots. Aussi qu'on pourra donner aux proches ou à ceux justement qui sont seuls pendant cette période.
Cool. Et bah du coup, vous avez plein d'idées maintenant pour faire des petites boîtes à chaussures et du coup les déposer au plus tard le 21 décembre dans les différents points de collecte à Bourg-en-Bresse. Je vous remercie pour cet échange et j'espère vraiment que cette année encore, les chaînes de solidarité à Bourg et dans le département seront très très nombreuses. Mais je dois admettre qu'en ces temps de fêtes de fin d'année, on parle beaucoup du Père Noël. On oublie bien souvent que c'est grâce à ses rennes que le Père Noël peut livrer en une seule nuit tous les cadeaux. Il me semble, Lola, que tu es une experte en ce domaine et que tu vas nous parler de ces fantastiques quadrupèdes noëlesques.
Oui, Aude. Et je pense que quand on parle de Noël, on pense souvent aux cadeaux, au Père Noël... Tous les trucs classiques. Mais on oublie souvent les amis du Père Noël, les rennes. Aujourd'hui, je vais lever le voile sur Rudolph et tous ses petits camarades sans qui les cadeaux ne seraient pas au pied du sapin le 25 décembre. L'histoire reste et restera toujours nébuleuse sur eux. Néanmoins, certaines versions de ce conte désormais connues dans le monde entier nous disent ceci. Comment font les rennes du Père Noël pour voler ? Selon certaines versions de l'histoire, ce serait grâce au lichen que mangent les rennes dans le village du Père Noël, qui serait magique. Ou encore à cause de la poudre que le Père Noël souffle sur l'attelage. Quoi qu'il en soit, c'est magique et ça va vite. On pense aussi que les rennes seraient des femelles. En effet, les rennes mâles perdent leur bois en hiver. Les rennes seraient donc des femelles fortes et fières. Quant à leur nombre, il y aura au départ 8 rennes. Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon et Tonnerre. Puis en 1939, apparaît enfin Rudolph, le petit nouveau au nez rouge. Du reste, seuls eux et le Père Noël en ont le secret. Mais je suppose que si vous pensez fort à nos 9 compères le jour de Noël, ils accepteront de vous dire le secret.
venez d'écouter Last Christmas de Wham sur Radio B. Pour cette dernière partie d'émission, je vais vous emmener sur les traces de nos ancêtres du département, plus ou moins lointains. S'il m'est aisé de compter ce qu'est Noël aujourd'hui, j'étais fort curieux de savoir ce qui se passait avant. Nos aïeux avaient-ils des croyances ou des traditions pour les fêtes de fin d'année dont on ne se souvient plus aujourd'hui ? Quel genre de légende et de folklore habitait alors la Bresse en ces temps-là ? Je dois vous admettre qu'en faisant mes recherches, j'ai été sidéré de trouver autant de sources pour documenter et construire ma chronique. Notre département est riche d'histoires, de traditions, de croyances, de légendes, de folklore, de contes et de bien d'autres choses. Une vie ne suffirait pas à vous transmettre tout ce savoir. J'ai donc eu la dure tâche de trancher et de partager avec vous une infime fraction de mes trouvailles. Ainsi commence ma chronique. Lorsque venaient les premières gelées et les grands froids de l'hiver, c'était, pour les enfants qui se rendaient à l'école, une source d'inspiration et de joie. Ils n'étaient pas en reste de trouver mille et une façons de s'amuser dans la neige. Les plus courageux d'entre eux s'aventuraient sur les mares et les fossés gelés, espérant alors que la glace tienne assez longtemps pour glisser avec une grâce qui leur est propre sur ces étendues glacées. Pour les autres, les glaçons se formant à la tombée des toits étaient largement suffisants pour s'imaginer des histoires dont on ne saura probablement jamais la teneur. Le mois de décembre se faisait toujours interminablement long, avec ses nuits aussi grandes que le cou d'une girafe et ses journées aussi rabougries qu'un asticot recroquevillé dans le saule gelé. Les Bressans, ne pouvant alors pas aller aux champs, devaient se trouver de nouvelles distractions pour patienter jusqu'à Noël. Bien que je puisse partir dans les méandres du mois de décembre, je dois me ressaisir. Laissez-moi donc vous parler de Noël. J'ai trouvé quelques histoires croustillantes à vous raconter à son sujet. Je ne m'attarderai pas sur le déroulement de cette fête, puisque nous la connaissons tous. À quelques détails près. À cette époque, dès le 24 soir, tout travail devait être arrêté. Mais surtout, il ne fallait pas travailler durant la messe de minuit. Une des histoires que j'ai pu relever dit à peu près ceci. On raconte qu'une femme sans le sou, bien qu'elle connaissait cette superstition, avait tant à faire en couture qu'elle ne vit pas le temps passer. Pièce après pièce, vêtement après vêtement, elle raccommodait tant et si bien que lorsque minuit sonna, elle était encore sur ses ouvrages. Alors que la messe de minuit s'achevait, elle ne peut plus jamais s'arrêter de coudre. Elle se mit à coudre pendant des heures, pendant des jours et pendant des mois. Dans ce même laps de temps, elle s'enfonçait peu à peu dans le sol, inexorablement. Assise sur sa chaise à coudre encore et encore, elle ne put rien faire, jusqu'au jour où elle fut enterrée vivante. Comme quoi, les superstitions à l'époque, il valait mieux les respecter. Pour nos aïeux, cette messe de minuit était des plus importantes. Beaucoup d'histoires et de superstitions se rapportent à celle-ci, directement ou indirectement, notamment pour ceux qui n'y assistaient pas. Une autre légende raconte que, lors de la messe de minuit, lorsque le prêtre lève l'hostie, les animaux de l'étable sont tous agenouillés devant la crèche. La superstition veut que si nous les voyons à cet instant précis et que nous les dérangeons, les bêtes se mettront à parler entre elles et annonceront notre mort dans l'année. Figurez-vous que j'ai trouvé la trace d'une histoire qui appuierait ces propos. Un fermier des granges neuves voulait à tout prix vérifier la véracité de ce récit. Alors que les 12 coups de minuit retentissaient dans le village, il entreprit de se rendre dans son étable. Alors que son regard se posait sur ses bêtes, il entendit l'une de ses vaches dire à une autre « Que ferons-nous demain ?» et à l'autre de lui répondre « Rien, puisque notre maître sera mort. » Le fermier eut si peur qu'il s'évanouit. Les voisins le retrouvèrent le lendemain matin, grelottant de froid. Il mourut avant que midi ne sonnât, probablement emporté par la main glacée de l'hiver. Il existe une variante de cette histoire. Selon cette dernière, le paysan ne trouverait pas la mort, mais recevrait une gifle magistrale du diable en personne, ou d'un puissant esprit malin, sous le rire de ses animaux de ferme. Une croyance du Haut-Bugey raconte que la nuit de Noël, le roi Hérode part à la chasse, accompagné de gros chiens. Il se met alors à parcourir toute la contrée pour débusquer et punir ceux qui ne se rendent pas à la messe de minuit. Et là, pareil, j'ai trouvé une histoire. C'est le témoignage d'un pontonnier du côte de Thoirette qui nous est parvenu. Ce pontonnier était chargé de faire traverser la rivière aux voyageurs. Le soir de Noël, fatigué, il avait décidé de rester au chaud dans sa chaumière. Alors que minuit sonnait, des coups violents retentirent contre sa porte. Ce tapage le réveilla en sursaut. Il se leva d'un bond et se précipita pour ouvrir à son invité. C'est alors qu'il se retrouva face à un immense chasseur, accompagné d'une meute de chiens impressionnant. On raconte même qu'une fanfare jouée par des musiciens invisibles suivait cet imposant cortège. Pris de terreur, le passeur entreprit de faire traverser tout ce beau monde d'une berge à l'autre. Une fois de l'autre côté, le chasseur paya au pontonnier son dû et déposa une énorme bourse remplie de pièces d'or dans la barque, non sans laisser échapper un ricanement effrayant. Une fois de retour chez lui, le passeur voulut compter son trésor. Toutefois, il ne trouva dans la bourse que des feuilles de houx qui lui blessèrent avidement les mains. C'est alors qu'il se rappela la légende. Certaines sources affirment que cette chasse aurait lieu dans certaines régions de Bresse le 29 décembre lors de la fête des rats. Je terminerai ma chronique en parlant d'un animal mythique, la vouivre. Sachez que si certaines mythologies l'ont rendu célèbre, il existe en Bresse autant de superstitions et de légendes à son sujet, de villages et de hameaux. Pourquoi vous en parlez, me demanderez-vous ? Tout simplement parce que la vouivre semble être l'un des sujets récurrents dans les conversations lors des veillées, comme celle de Noël par exemple. D'après les croyances, cet animal ressemble à un serpent ailé, portant sur son front une gemme ou un rubis d'une grande valeur. Pour d'autres, c'est une fée qui n'avait qu'un œil et un diamant lumineux au milieu du front. La seule façon de récupérer cette pierre précieuse, c'était de tomber sur ce monstre lorsqu'il buvait à une fontaine ou une rivière. En effet, la vouivre ne s'abreuve jamais en portant son trésor. Elle le dépose à ses côtés. S'emparer de cette gemme ou de ce diamant était un signe de richesse éternelle. Mais attention à ne pas se faire prendre. La mort sera alors votre seule récompense.
Merci beaucoup, Lou, pour cette chronique. L'émission touche maintenant à sa fin. Il est temps pour nous de donner la parole à Rémi, qui nous a accompagnés durant ces 10 semaines du Radio Club.
Oui, en effet, félicitations à vous pour cette émission qui était finement menée. Alors, les animateurs que vous avez entendus ce soir, et ainsi que Gaël à la régie, ben, ils sont arrivés à la radio en septembre. Et ben, désormais, ils savent mener l'émission, ils savent l'enregistrer, faire les réglages, mener une interview, réaliser un micro-trottoir et le monter. Bref, il y a fort à parier que vous entendrez bientôt nos jeunes et moins jeunes animateurs et animatrices sur les ondes de Radio B 90 FM. Alors, pour rappel, Radio B est la radio associative de Bourg-en-Bresse et de ses environs. Ça s'étend jusqu'aux limites du Jura et même de Lyon. Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à pousser les portes de la radio. Comme on l'a dit auparavant, le Radio Club va reprendre à partir du 28 janvier pour une nouvelle session. Si vous êtes intéressé pour participer à cette belle aventure, n'hésitez pas à contacter le standard de la radio au 04 69 19 55 27 ou contact@radio-b.fr. Et puisque, comme moi, vous ne notez jamais quand vous entendez la radio, vous tapez Radio Club Radio B dans votre moteur de recherche préféré et vous avez toutes les infos et tous les contacts pour joindre Radio B. Alors, les 10 séances du Radio Club sont à 50€ par personne avec une adhésion en fonction de votre statut. Et chaque mercredi de 18h à 20h, vous pourrez ainsi vous initier aux joies de la radio, du direct, de l'écriture radiophonique, du podcast, à la façon de Lou, de Gaël, de Lola, de Fadel et de Aude que je félicite pour le travail accompli depuis septembre. Une petite pensée aussi pour Julia qui nous a accompagnés les premiers mois et qui a un emploi du temps bien chargé qui ne lui permet plus d'être là. Félicitations à vous. Il est donc l'heure de se quitter. Alors moi, je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année en compagnie, bien sûr, de Radio B pour vos trajets en voiture. On se branche sur Radio B. Félicitations à vous, encore une fois, et passez de bonnes fêtes.
Merci.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio B.
En direct du Radio Club.
De 18h à 20h.
Radio B, les bonnes ondes.